Salut, pour ce nouvel épisode, on va parler un petit peu d'actualité et puis surtout des trois perturbateurs de progrès en 2018. Alors, petite page news avant. Pour tous les membres VIP, j'ai envoyé un email, mais pour ceux qui n'ont pas reçu, allez voir vos spams, parce que souvent ça arrive en spam, malheureusement. J'ai lancé un groupe Facebook, un groupe privé Facebook spécial pour les membres, afin de pouvoir échanger de manière, on va dire, libre, sans être perturbé par des gens qui sont pas intéressés par le fitness, parce que des fois sur Internet, il y a des gens qui ne sont pas dans notre domaine, donc du coup les interactions sont un peu ben voilà, sans contenu, sans pertinence, sans rien du tout. Pourquoi? Parce que les valeurs de chacun sont de chacune des personnes sont trop partagées. Et du coup, des personnes tombent sur des pages de fitness et apportent leurs propres valeurs, alors que malheureusement, ce sont pas les nôtres. Et du coup, ben ça crée on va dire, des gens qui vont s'abstenir de commenter parce qu'elles ont pas envie de débattre avec des personnes qui ne partagent pas leurs valeurs. Donc du coup, j'ai créé un petit groupe Facebook et il démarre plutôt bien. Bon, ça m'a demandé pas mal de boulot en fait. Je m'attendais pas à autant de travail. Pourquoi? Parce que vu que j'ai mis des questions d'entrée, toutes simples, hein, mais pour pouvoir vérifier que les gens sont bien inscrits sur la zone membre, ben ça m'a vu que j'ai eu plus de 600 demandes, j'ai dû filtrer une par une. Ça m'a pris un petit peu de temps et c'est pas fini. Mais bon, le résultat est concret, je vois les gens qui ils interagissent entre eux, donc c'est plutôt bon signe, je suis assez content du résultat. Autre chose, pas mal de personnes m'ont demandé où se trouvaient les fiches entraînement, les programmes en fonction, voilà, des groupes musculaires, des objectifs, etc. J'ai tout regroupé de façon claire avec des liens et tout, et je vous mets tout en description. Voilà. Deuxième chose, oui, alors voilà, je voulais parler des perturbateurs de progression en 2018. Alors, on pourrait penser, et moi le premier, que depuis quelques années, s'il y a eu cette avancée du fitness, cette grosse mode du fitness qui arrive en France, on peut tirer notre chapeau à un certain Thibaut InShape. Alors, je m'explique. Le personnage, donc l'individu Thibaut InShape, a fait progresser en France le fitness grâce au divertissement, grâce à sa chaîne YouTube, à ses interactions, etc. Ce qui a lancé beaucoup de jeunes à se lancer, à voir que c'était possible, etc. Et puis d'avoir surtout un contenu assez facile d'accès au niveau de la compréhension et puis du support également, puisque c'est beaucoup de vidéos YouTube. Donc du coup, je pense que grâce à lui, le fitness a pu s'envoler un petit peu plus vite que prévu. Pourquoi? Je pense que c'est pas uniquement, enfin, s'il n'y avait pas eu Thibaut InShape en France, le fitness aurait quand même décollé. Parce que ce qui a fait que Thibaut InShape a réussi à se développer, c'est avant tout, bien sûr, son talent, mais également au support. Est-ce que sans YouTube, sans Internet, il aurait fait des petites annonces, je ne sais pas, dans les journaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que sans lui, ça aurait progressé certainement plus lentement, parce que c'est un peu notre Cyprien de la musculation, quoi. Il a beaucoup, beaucoup d'abonnés, une très, très grosse notoriété, et puis voilà, une base de fans qui grandissante. Donc, je pense que grâce à lui, beaucoup de personnes se sont mises au fitness et des personnes comme moi qui on est plus dans des domaines, on va dire plus, je sais pas comment on pourrait dire, mais moins dans l'information plus que dans le divertissement, on peut pas nier qu'on en a profité. On en a profité indirectement, c'est-à-dire que forcément, s'il y a beaucoup plus de personnes qui se mettent à la musculation, au bout d'un moment, bon, toutes les personnes ne vont pas devenir des passionnés, mais le peu de personnes qui vont devenir passionnées, à un moment donné, peuvent avoir des chances de tomber sur notre contenu. Et donc, ben voilà, par exemple, moi, avec mes podcasts, un petit peu plus, on va dire, sur le développement perso, sur l'approche sommeil et tout ça, vont peut-être s'intéresser à ce genre de domaine et donc me trouver. Donc, c'est une forme de remerciement que je lui fais d'avoir créé tout ce contenu. Mais à la fois, on va voir que ça a créé, alors pas à cause de lui, hein, bien au contraire, mais ça a créé depuis mes débuts une différence de perception de l'entraînement, de la nutrition, de toutes ces choses-là. entre aujourd'hui, donc 2018, et quand j'ai démarré la musculation il y a à peu près 10 ans. Donc déjà, moi, le premier point, le premier perturbateur que je remarque, c'est la multiplication des méthodes. Alors, on pourrait penser que c'est bien d'avoir des tas de méthodes d'entraînement, parce que ça en fait pour tous les goûts. Mais sur des individus qui ont une absence de goût pour l'entraînement à la base, qui ont une absence de goût, ces personnes-là vont être perdues. Donc en fait, c'est pareil, une personne, tu la mets devant un rayon. La personne a décidé de s'acheter du poulet. Elle a décidé de s'acheter du poulet, mais elle a aucune idée, aucune connaissance sur la qualité de la viande, sur le bio, le machin, elle sait rien de tout ça. En face d'elle, elle a 10 morceaux de poulet différents. Et si elle n'a pas un minimum de connaissances et de goût, elle va passer 3-4 heures devant le rayon. Et au bout d'un moment, elle va demander à un proche, tu me conseilles lequel? Pourquoi? Parce que cette personne, étant donné qu'elle a une absence de connaissances et de goût, parce qu'elle n'a jamais testé, ça va être soit du hasard, soit elle va demander le conseil d'un ami. Et en fait, les méthodes d'entraînement aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de personnes se retrouvent face à des tonnes d'informations, de contenus sur l'entraînement et sur la nutrition, hein, c'est pareil. Pour les personnes qui ont déjà certaines connaissances, certaines valeurs, un certain goût, par exemple pour les entraînements en plein air ou les entraînements à domicile ou les entraînements en salle de sport, ça va les aider à s'orienter, le fait d'avoir le choix. Mais pour les personnes qui en savent rien, ça les met un petit peu dans le doute. Et en règle générale, ce sont ces personnes-là qui vont prendre des coachs, qui vont un petit peu déléguer. Au lieu de demander le conseil aux proches pour le blanc de poulet, ils vont demander le conseil au coach pour savoir laquelle méthode d'entraînement est la meilleure, quoi. Donc ça, c'est un perturbateur. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il y avait plus ou moins qu'une seule méthode de, on va dire, bodybuilding, musculation, fitness, il y avait plus ou moins qu'une façon de faire, une ligne de conduite à tenir pour se muscler, c'était relativement simple. On acceptait les contraintes et on y allait, quoi, on fonçait. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui sortent où, on gomme un peu les contraintes. Enfin, on essaye de vous faire croire qu'on va gommer les contraintes et que vous allez avoir que du positif, que ça va être miraculeux, que, enfin, bon, voilà, bref. Donc, du coup, il y a tellement de choses et c'est tellement récent qu'il y a des absences de retour sur expérience, on va dire. Du coup, les personnes, elles ont peu de données, de choses pour pouvoir se décider. Donc, pour moi, je pense que c'est un des facteurs qui vient perturber la progression en 2018, qui vient finalement freiner le débutant et le maintenir un petit peu dans sa position de départ trop longtemps. Donc en fait, il prend du retard, tout le monde décolle, et puis lui, il n'arrive pas à se décider quel chemin il prend, quoi. Donc après, la solution pour ça, je vais pas dire aux gens de me suivre moi, ça serait assez prétentieux. Je préfère recommander aux gens de se concentrer sur une seule personne. Pourquoi? Parce que même si cette personne-là n'est pas la meilleure, n'est pas la plus intéressante, n'est pas la plus qualifiée, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si la personne ne choisit jamais, elle va toujours stagner. Si la personne un jour choisit une personne qui n'est pas forcément la meilleure, elle aura probablement une petite progression et au bout d'un moment, elle aura certaines valeurs, elle aura détecté ce qu'elle préfère, c'est-à-dire par exemple sous forme de l'entraînement, si elle préfère plutôt s'entraîner chez elle, à domicile, en extérieur ou en salle, elle aura déjà une petite grille de lecture par rapport à ses propres envies, ses propres goûts. Et si la personne ne progresse pas du tout, c'est-à-dire que en suivant un individu ou une individu, alors je sais pas si on peut le dire comme ça là, à chaud, j'ai du mal à savoir. Cette personne-là aura cru perdre du temps parce qu'elle aura pas progressé, mais en réalité elle aura progressé car elle aura vérifié que par le suivi de cette méthode, elle n'a pas progressé. C'est-à-dire que par l'absence de résultats, elle pourra se dire « Ok, méthode X ne fonctionne pas pour moi, je raye. » Donc, l'échec est une forme de progression. Donc, même suivre la mauvaise personne pendant un certain nombre de temps, on pense avoir perdu une année, mais réellement, on a gagné du temps. C'est-à-dire qu'on a pu éliminer quelque chose. Et c'est quand même une grosse forme de progression que d'éliminer quelque chose. Je rapporte ça à quelque chose de plus concret. si jamais on a, je sais pas, quatre aliments devant nous, du riz, du poulet et des lentilles. Donc on sait que le riz, ça va être beaucoup de glucides, le poulet, ça va être des protéines, et les lentilles, ça va être protéines, glucides, fibres. La personne veut combler son manque de protéines et consomme à la fois pendant un mois que du riz, à la fois pendant un mois que des protéines, à la fois pendant un mois que des lentilles. Elle va se rendre compte par défaut que quand elle consomme que du riz, eh ben, ça se passe mal au niveau de sa progression en termes de masse musculaire et même en termes de maintien de masse musculaire. Donc, par définition, elle va se dire que ça marche un peu mieux avec les lentilles et bien avec le poulet. Elle va voir également qu'elle pourra modifier sa diète et pas inclure que du riz dans sa diète. Elle va devoir ajouter une autre source d'aliments pour avoir un petit peu de protéines. Plus ou moins, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'en essayant les essais-erreurs, on va dire, cette personne-là va réussir au fur et à mesure de se concocter plus ou moins sa propre façon de s'entraîner, sa propre façon de s'alimenter. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes n'ont pas envie de faire des erreurs. Elles n'ont pas envie. C'est-à-dire qu'elles cherchent en permanence la meilleure solution. Mais en cherchant en permanence la meilleure solution, elles passent jamais à l'action. Donc du coup, ça, c'est une vraie forme d'échec. En cherchant la perfection, en fait, on est perpétuellement en échec, parce qu'on démarre jamais. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le manque de temps libre. Alors j'ai marqué, on pense que l'on manque de temps, mais si on en manque, c'est bien qu'il est utilisé par quelque chose. C'est-à-dire qu'on décide de consacrer du temps à quelque chose. Si on n'a pas de temps, on a tous 24 heures, donc on passe à peu près entre 6 et 8 heures à dormir. Donc il nous reste, on va dire en moyenne, je vais dire en moyenne, il nous reste 16 heures. Il nous reste 16 heures d'éveil. Sur ces 16 heures d'éveil, on ne fait pas plus qu'avant en termes de productivité. On fait juste plus de choses. Et ces choses, en partie, qu'est-ce que c'est? Une étude, alors je l'avais mis dans une. Si vous voulez la référence, allez regarder sur mon site, il y avait l'étude, hein, le lien. Environ 4 heures devant les écrans. Donc je crois que c'était 3 heures, un peu plus de 3h30, quelque chose comme ça. Devant les écrans. Donc c'est télé, Netflix, tablette, les emails, tout ce qui a un écran à LED, quoi. Donc ces 4 heures qu'on passe devant les écrans, ça peut être assimilé à du temps. Alors là, je parle hors contexte boulot. C'est pas le gars qui est ingénieur ou qui est codeur, développeur ou comptable ou autre devant son écran. Je parle bien du temps devant les écrans hors contexte boulot. Ça représente clairement un temps libre occupé par quelque chose. Le problème, c'est que nous, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que ces 4 heures, enfin, on va dire ces 3h30 dispatchées sur la journée, elles sont, voilà, un petit peu le matin, un petit peu à la pause, un petit peu, voilà. Alors, dès qu'on a une minute, on va se foutre devant un écran. Et ça, malheureusement, nous, on le perçoit comme, du coup, pénalisant sur la journée. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir nos journées qui sont bouclées, qui sont au taquet. Mais en réalité, c'est du temps qu'on utilise un petit peu, bah, rien faire, quoi. On n'apprend pas, on progresse pas, on n'apprend rien. À moins que ce soit réellement, chaque soir, la personne se dise ou se concentre tout son temps libre. Donc, ces 4 heures-là, elle l'utilise pas pendant la journée. Elle le concentre sur des conférences, sur des vidéos formations, vraiment de l'apprentissage pur et dur. Mais une chose est sûre, c'est que ce manque de temps libre qu'on pense, et réellement, c'est quelque chose qui vient nous pénaliser sur notre productivité. Pourquoi? Parce que toujours sauter, par exemple, d'une tâche où on est en train de bosser à une tâche où on va consulter du contenu. Je parle pour tout le monde, hein, tous ceux qui bossent dans quel que soit le domaine enfin, quel que soit le domaine, ça demande un effort au cerveau de se reconcentrer sur cette nouvelle tâche et après rebasculer sur l'ancienne tâche. Et ça taxe du temps. Ça prend du temps. Et je pense même, alors là c'est une supposition, que le fait d'être durant la journée dans l'attente de notification, c'est-à-dire qu'on va attendre, on va surveiller en fait les futures notifications. Est-ce que j'ai eu un message sur Facebook? Est-ce que j'ai eu un texto? Est-ce que voilà, j'ai reçu des actualités d'un tel ou autre? Ça nous crée inconsciemment dans une forme de concentration qui n'est plus aussi intense qu'avant l'arrivée des réseaux sociaux, des smartphones et tous ces trucs-là. Donc, un des perturbateurs de progression en 2018, c'est bel et bien la croyance qu'on manque de temps. Et la solution pour ça, c'est de se dire « j'ai du temps que j'occupe avec des choses qui me font plaisir », donc consulter les réseaux, regarder la télé, enfin bon, tous les trucs que vous faites habituellement, et qu'à cause de ça, je ne peux pas aller m'entraîner ou, je sais pas moi, faire quelque chose, aller faire un footing ou apprendre la nutrition, par exemple. Mais il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que on peut pas forcer la réalité à croire ce qu'on se dit. Alors là, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est pas en vous disant que vous manquez de temps que dans la réalité, on va vous dire « bon, ben c'est bon, tu manques de temps, on te pardonne ». Non, non. C'est le temps, on en est... je veux bien que quand on est salarié, on n'est pas réellement responsable. Enfin, on l'est, mais on n'est pas réellement responsable de notre temps libre, de notre temps. C'est-à-dire que 8 heures par jour, on doit être au boulot. Bon, voilà, chacun est libre de faire le boulot qu'il a envie de faire en fonction des moyens qu'il se donne, je pense. Encore que ça, c'est discutable, mais bon, bref. À partir du moment où on est hors contexte travail, le temps qui vous reste, on le meuble comme on veut. Comme on souhaite. À partir du moment où, voilà, on a tous du temps libre. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre conscience de ça et se dire, quand on occupe du temps libre avec du Netflix et du téléphone portable, il faut se dire... Je suis conscient que là, je suis en train de griller des cartouches, des minutes de temps libre à me divertir, à flâner, à rester un peu au point mort. Alors, parfois, c'est nécessaire. C'est-à-dire que, bah, voilà, des périodes où on a envie un peu de se reposer les méninges, c'est pas de problème. Mais quand on a pour objectif de se transformer, de perdre son tour de taille, etc., il y a un moment donné où ce temps libre va devoir se sectoriser et on va devoir placer un petit peu de ce temps libre dans l'effort, tout simplement. Alors, moi je mettais, le problème c'est de meubler du temps par le confort à l'excès, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, au lieu de le meubler par de l'effort. Donc le confort, enfin voilà, le confort, je le répéterai jamais assez, on cherche le confort absolu et on comprend pas aujourd'hui pourquoi on a mal partout, pourquoi on dort mal, pourquoi, enfin, il y a toutes ces choses-là. Enfin, je dis on, c'est surtout pour les personnes qui sont extrêmement sédentaires et qui ont l'impression de subir quelque chose finalement. Et en fait, elles subissent que leur confort. Ce qu'elles subissent, c'est le choix d'avoir décidé de vivre une vie trop confortable. Mais ça, c'est, voilà, c'est un autre débat. Je pense que la notion de confort n'est pas comprise par tout le monde. Troisième point, la généralisation des individus dans l'inconscient collectif. Alors, là, je m'explique un peu, j'ai noté tendance à vouloir entrer dans une case. Alors, par exemple, ça peut être les morphotypes. Donc, on va essayer toujours de nous placer tous dans des cases. Alors, les morphotypes, endomorphes, mésomorphes, ectomorphes, tous ces trucs-là. Moi, je pense que c'est pas nécessaire de savoir quel est notre morphotype, surtout que, à partir de, enfin, bon, on n'est pas tous d'accord sur les morphotypes, d'ailleurs. Donc, je vais pas débattre là-dessus. J'en ai déjà parlé longuement dans une grosse vidéo membre. J'ai exposé mon point de vue par rapport à ça. Mais, moi, ce que je vois, le plus gros point faible de ce truc-là, c'est que ça va brider les gens. C'est-à-dire que si on est dans telle ou telle case, on va avoir qu'un champ limité d'action. Si on se place volontairement dans telle ou telle case, on va se dire bon ben vu que je suis là-dedans, ça sert à rien que j'essaye ça, moi j'ai le droit uniquement de faire ça. Et ça, moi je trouve que c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça on perd le contrôle. En fait, on est contrôlé par autre chose qui n'est pas nous. Ça se trouve, on aurait bien aimé faire les trucs que font l'endomorphe, mais vu qu'on est ecto ou mésomorphe, ben non, c'est pas dans les textes, donc je le fais pas. Et ça, moi, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses. Bref. Donc, vouloir toujours se mettre dans une case, pour moi, c'est un facteur limitant, et c'est un perturbateur de progression, et qui s'est un petit peu généralisé aujourd'hui avec ben voilà l'avènement, on va dire, du fitness en France. Après, il y a eu la tendance à se concentrer uniquement sur le concret, comme l'entraînement et la nutrition, et d'oublier l'abstrait. Alors l'abstrait qui serait le reste du temps, en fait. les gens, ils vont avoir tendance à nous dire qu'ils ont tout essayé, ils mangent bien, ils s'entraînent bien, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Sauf que dans le calcul, moi, je répète toujours aux gens que l'entraînement qui représente aller maximum 2 heures de la journée pour les personnes qui traînent le plus la patte à l'entraînement, ça représente qu'une petite fraction de la journée. Si on ne prend pas en compte le reste de notre activité quotidienne, c'est-à-dire si on est maçon, si on est bûcheron, si on est comptable, si on est restaurateur, si on est, je sais pas, facteur au bureau de poste, voilà. Quel que soit l'emploi que l'on a, ça donne quand même une bonne indication sur le rythme de vie qu'on a. Est-ce qu'on est plutôt actif, plutôt très actif, plutôt peu actif, plutôt sédentaire? Si vous êtes commercial, admettons. Il y a des gens qui me disent « je suis actif, je suis commercial ». D'accord. Donc moi, lors de consultation, je leur dis « t'es actif, t'es commercial, ok ». Mais durant ta journée de commercial, comment tu définis que tu es actif? Eh ben, je fais beaucoup de kilomètres dans la journée, je vais à droite, à gauche, etc. Non. En fait, t'es actif grâce à ta voiture. Mais toi, ton corps, est-ce qu'il est actif ou pas? Combien de temps tu passes debout? Ah, ben en général... les rendez-vous avec les clients, ça dure 15 minutes. Donc, pendant les 15 minutes, je vais être debout. S'ils me reçoivent dans leur bureau, je vais être assis. Après, je remonte en voiture, je suis assis. Puis, je fais une pause pour déjeuner, je suis assis. Finalement, ils sont presque autant assis que quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui prendrait sa pause café, qui irait au bureau d'à côté pour discuter 5 minutes, qui prendrait sa pause déjeuner, etc. Donc, le côté actif, il faut bien comprendre ce que c'est. Être actif, c'est utiliser les muscles de son corps durant la journée. Marcher, pour les gens qui vont avoir un boulot où ils marchent. Moi, j'ai un ami qui est fleuriste. Il a une toute petite boutique qui fait très peu de mètres carrés. Hein. Ça doit faire, je sais pas, peut-être maximum, peut-être 40, 50 mètres carrés à tout casser. Et encore, non, ça doit être plutôt dans les 40 mètres carrés. Pourtant, dans cette petite surface-là, lui, il bouge pas beaucoup. Hein. Il fait pas des kilomètres pour aller voir ses clients. Hein. C'est ses clients qui viennent déjà. Et en plus de ça, quand il les voit, il circule dans 40 mètres carrés. Pourtant, sur ses 8-9 heures de boulot, il fait plus de 30 000 pas. Donc, il est extrêmement actif. C'est pas parce qu'on bouge peu en termes de distance, sur une distance nette, on va dire, d'un point A à un point B, qu'on fait beaucoup. On peut bouger énormément sur une petite surface. Quelqu'un qui est dans la restauration, qui est en cuisine, qui travaille en cuisine, et qui va travailler sur son poste de travail en permanence, c'est-à-dire qu'il va naviguer entre le four, le plan de travail, le piano pour la cuisson, etc. Cette personne-là, elle va bouger dans une très petite surface, mais pourtant, elle va bouger énormément, et avec les bras, les jambes, etc. Cette personne va être active. On a du mal à se représenter ce qu'est être actif, et je pense qu'aujourd'hui, on se concentre trop sur l'entraînement et la nutrition. Et si on n'a pas de résultat, on va pas remettre en cause le reste de notre style de vie, mais on va se dire telle méthode ne fonctionne pas, ou moi j'ai testé telle alimentation, ça ne fonctionne pas sur moi. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'une méthode, c'est pour ça que je parlais de la généralisation, quand on prend un programme X sur Internet pour la prise de masse, qu'on va le donner à mon pote là, qui est fleuriste, et on le donne à un autre qui est commercial et qui est tout le temps dans sa bagnole ou assis dans un bureau. Évidemment qu'il y en a un des deux qui va progresser plus vite que l'autre. On va dire en termes de poids de corps. Celui qui est plus sédentaire va progresser plus vite, puisqu'il dépense moins. Mais l'autre, qui est plus actif, va peut-être progresser moins vite et peut-être avoir un physique moins disgracieux aussi. Parce que si sa prise de masse lui fait prendre du gras à celui qui est actif, donc celui qui est réellement le fleuriste. Si elle lui fait prendre du gras, un petit peu de gras, bah imaginez ce que ça va faire prendre en gras à celui qui est tout le temps dans sa voiture. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner leur prise de masse en se disant « j'ai démarré, j'ai pris du bide en un mois, un truc de fou ». Ouais, non mais attends, combien de calories t'as ajouté par rapport à ce que tu mangeais avant? Et aussi, quel est ton rythme de vie? Faire 1 heure de sport par jour, moi j'appelle pas ça être actif. C'est très bien pour la santé. Mais c'est pas être actif. Être actif, c'est quelqu'un qui a un travail physique. Déjà, par définition, quelqu'un qui a un travail physique est quelqu'un qui est actif. Mais quelqu'un qui a un travail physique plus s'impose du sport en fin de journée ou en début de journée ou en milieu de journée, c'est une personne qui est très active. Donc, la généralisation des individus dans l'inconscient collectif fait aussi que c'est un perturbateur de progression. Parce que les gens, ils ont tendance à vouloir ressembler à tout le monde, à dire « je vais faire la méthode X ou la méthode Y ». Mais en fait, la méthode X ou la méthode Y, c'est prendre qu'une fraction de la méthode faite par celui qui la propose. Si on veut vraiment faire une méthode d'entraînement, c'est tout le style de vie de la personne. C'est-à-dire que la personne, si on veut reproduire... Moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent se comparer et imiter d'autres personnes. Je trouve ça très dynamisant. Les personnes disent faut pas se comparer, etc. Mais bon, bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les gens qui vont dire « ouais, mais donc ça veut dire que celui qui se dope, toi, tu recommandes de le suivre. » Non, non, moi, je m'en fous. Les gens sont assez grands pour... voilà, le dopage, c'est illégal, c'est dangereux. Je veux dire, personne n'est abruti au point de croire que c'est bon pour la santé et que c'est légal. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de dire « attention, machin ». Non. Par contre, une personne qui veut s'inspirer d'une autre... elle a le droit. Si ça la dynamise et que c'est la seule façon pour cette personne de se motiver, où est le problème? Enfin, je vois pas. Enfin, bon, bref. Et donc, pour revenir à ce point-là, croire que en suivant essentiellement la partie nutrition et la partie entraînement, on va avoir les mêmes résultats, je pense que c'est une bêtise. Il faut pousser plus loin le raisonnement et se dire, ok, je fais bien sur la nutrition, je fais bien sur l'entraînement. Le reste du temps, est-ce que je fais bien aussi pour aller dans le sens de mes résultats. Si je veux être sec, que je mange propre, c'est-à-dire que je mange de manière hypocalorique, raisonnable, sans trop couper les calories d'un coup pour pas me foutre en l'air le métabolisme. Si je m'entraîne correctement pour maintenir ma masse musculaire avec quand même des charges lourdes, un peu de cardio si j'ai beaucoup de gras à perdre, etc. Mais qu'à côté de ça, le reste de la journée, je suis assis sur une chaise, c'est la politique du moindre effort, etc. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas dans le raisonnement. Si on veut perdre des réserves de graisse, c'est comme une bagnole. Si on veut tomber en panne d'essence et épuiser la réserve d'essence, faut faire des kilomètres. Le corps, c'est pareil. Si on veut commencer à taper dans les graisses, les réserves graisseuses, il faut amener le corps un petit peu à avoir envie d'utiliser ses réserves. Et si on compte que sur le divertissement audiovisuel et le fait de penser à deux, trois trucs dans la journée pour brûler des calories, ça va être hard, quoi. Enfin, je veux dire, on va plus rapidement se blaser de notre diète et de l'entraînement par absence de résultats. Bon, après, moi, ça, c'est ce que j'ai remarqué. J'avais envie d'en parler. Pourquoi? Parce que, ben, comme je disais au début au début du podcast, je pense que grâce à certains youtubeurs, donc j'ai nommé Thibaut InShape, pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, on peut pas se cacher, il y en a beaucoup qui le critiquent. Enfin bon, même des gros youtubeurs qui le critiquent. Moi, je vois pas pourquoi on le critiquerait. Il a amené beaucoup de gens à s'y mettre. Pour les gens qui ont un business sur Internet, forcément que de manière décalée, ça deviendra profitable puisque ça fait des nouveaux pratiquants, donc forcément des nouveaux clients potentiels. Dans tous les domaines, pour les salles de sport, c'est pareil, ça fait de plus en plus d'adhérents. Donc, il a quand même encouragé le mouvement fitness un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire dans le côté motivation, dans le côté business, dans le côté, enfin voilà, la vague fitness a quand même bien évolué grâce à lui. Donc bon, je vois pas pourquoi on le critiquerait. Après, bon, c'est aussi grâce aux plateformes, aux médiums comme on dit, donc à YouTube, Instagram, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup maintenant, ils appellent ça des influenceurs. D'ailleurs, on m'a taxé, on me nomme parfois quand je suis sollicité par des marques. Voulez-vous faire partie des influenceurs, etc. J'ai un peu de mal avec ce terme. Enfin bon, bref. Et toute cette vague-là, tous ces supports ont permis à des gens de percer et donc d'influencer des gens. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. Mais voilà, le plus gros, c'est Thibaut, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais je pense que quand même le fitness aurait évolué dans le milieu français grâce au support, donc aux réseaux sociaux, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les gens qui s'attendaient à avoir des conseils dans ce podcast, les perturbateurs de progression sont le gluten, le lactose et les séries longues, je pense qu'ils sont déçus. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi tranchés. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette réflexion. De toute façon, les personnes qui s'attendaient à avoir des réponses toutes faites avec des trucs appliqués, ils sont plus là, hein. Donc ils ont pas écouté jusque là. Donc, quelque part, tant mieux. Donc, je répète un petit peu, pour ceux qui n'ont pas entendu le début du podcast, que le groupe Facebook est ouvert que, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je dirais plutôt heureusement, aux membres VIP, ce qui permet d'avoir une bonne qualité de contenu et d'interaction. La prochaine vidéo sortira ce week-end, une vidéo VIP portant sur trois questions d'un membre qui a un putain de super niveau, qui m'écoute d'ailleurs en podcast aussi. Et il a toujours des questions qui sont assez rares. Il doit me poser trois questions par an. Et enfin, il m'envoie trois emails assez des pavés par an. Et on sent que derrière ces emails, il y a eu pas mal de questionnements et qui vient vers moi que quand ben, il en a plein le cul et qu'il veut une piste d'action ou un regard extérieur. Donc, je vais répondre à ces questions qui me semblent intéressantes. Et d'ailleurs, c'est pour des personnes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire. Donc, on sort du contexte des personnes qui ont du mal à perdre du gras, mais plus dans des personnes qui ont beau se gaver et qui ont beau s'entraîner dur, ben les gains viennent assez difficilement. Quand ils s'arrêtent un week-end ou une semaine, ben, ils ont l'impression de perdre je sais pas combien de kilos de masse musculaire. Et ben, ça traitera un petit peu de tout ça. Donc, je vous laisse ici, podcast long. C'est peut-être parce que j'ai un peu hiberné sous la neige à Montpellier, donc du coup j'avais pas mal de choses à dire. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et en attendant, ben, restez un petit peu concentrés sur votre entraînement, votre diète et votre style de vie global. Bye.